Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Il en a été question dans la balado précédente du fait que, oui, il existait des crimes non résolus impliquant un policier comme victime. Ça peut paraître surprenant, mais oui, il arrive aussi que des policiers sont victimes de meurtres ou d'homicides involontaires ou bref et tout ça, et que leurs crimes restent non élucidés. Oui, bon, la coïncidence fait en sorte qu'il y en a deux la même année et même à un mois d'intervalle seulement. Donc, en 1885, il y a deux policiers. On a vu le premier la balado précédente, que c'était John Malone, donc qui avait été tué au cours d'une émeute. Et on n'a jamais retrouvé, en tout cas, on a eu un suspect qui a subi son procès, mais il a été acquitté. Donc, c'est resté non résolu. Alors, on va passer au suivant. Au mois d'août 1885, cette fois-ci, c'est au tour de John Beatty, lui aussi qui était policier. Je n'ai pas l'âge, malheureusement, des policiers, ni de Malone, ni de Beatty. Mais ça se passe moins d'un mois, évidemment, après la tragédie qui a coûté la vie à Malone. Pour sa part, John Beatty a été appelé à repousser, on imagine que c'est un appel ou un call, comme on dit en bon québécois, qui l'a amené à repousser deux vagabonds qui avaient l'habitude de traîner devant la fenêtre d'une résidence. Donc, il faisait probablement du tapage et tout ça. Donc, il a été appelé à intervenir sur les lieux. Donc, on ne parle pas cette fois-ci d'une émeute. Les circonstances sont différentes. Donc, Beatty les a approchés. Effectivement, les deux vagabonds, où je pense qu'on peut parler d'itinérants, un peu perturbants. Beatty s'est approché d'eux, donc ils étaient vraiment là. Mais l'un des deux a refusé de partir avant de finalement accepter de s'éloigner pour entrer dans un magasin. Donc, dans un premier temps, il a refusé, il essayait de tenir tête aux policiers. Et finalement, il a accepté de reculer et de s'écarter un peu, d'aller dans un magasin, tout en prétextant qu'il voulait acheter quelque chose. Bon, venant d'un itinérant, ça peut paraître un peu étrange, mais bon, les itinérants ne sont pas toujours sans le sou non plus. Il arrive là, qu'ils quittent de l'argent, donc ils s'achètent quand même certaines choses. Mais peu de temps après, c'est ce qu'on raconte à l'époque, il est revenu s'installer devant la même fenêtre. Donc, il faisait à sa tête, quoi. L'un des policiers a alors tenté de procéder à son arrestation et une lutte a éclaté. Donc, c'est à ce moment-là que tout a basculé. Comme diraient les Français, c'est parti en vrille. Et le bâton du policier, on imagine que c'est Beatty, on s'est retrouvé dans la main du vagabond, donc pendant les échanges de coups, le policier s'est fait désarmer et le vagabond a alors violemment frappé le constable Beatty à la tête. On ne sait pas combien de coups il a donné, mais de façon assez violente pour le tuer finalement. Et on raconte même que Beatty et l'un de ses collègues, donc on imagine là par déduction qu'ils étaient deux à intervenir à cet endroit-là, qu'ils ont été sévèrement battus ensuite par la foule rassemblée autour de l'incident. Donc non seulement ils ont été battus par un des itinérants, ensuite il y a eu une foule là, qui est allée voir, j'imagine, qu'est-ce qui se passait. Et la foule s'est mis de la partie et a frappé Beatty et son collègue. On raconte même que l'un des assaillants, qui se nommait Mason, a été conduit au poste numéro 9 pour être interrogé et tout ça. Donc, mais c'est comme je le disais aussi dans la précédente balado, quand c'est cautionné par un groupe, Même si c'est pas nécessairement le cas ici, on parle plutôt d'un homicide situationnel. Mais c'est toujours difficile d'analyser dans le détail les crimes quand ça implique beaucoup de personnes. Ça devient complexe. Qui a fait quoi à la seconde près? C'est sûr qu'il y a des témoins qui acceptent quand même de parler dans ces affaires-là, mais les témoins ne peuvent pas tout voir, ne peuvent pas tout retenir, ni toutes les paroles qui ont été dites. Donc, c'est très délicat et souvent très complexe. Évidemment, la mort de Beatty, on imagine qu'il est mort, je ne sais pas si c'est la journée même, ce n'est pas mentionné dans les journaux, ou si c'est peu de temps après, mais on a jumelé ça avec la perte récente de Malone, un mois plus tôt, et ça a soulevé évidemment la perte de deux policiers en si peu de temps, ça a soulevé l'indignation des autres représentants de l'ordre de la ville, donc tous les policiers se sont sentis concernés. Ça, on le sent dans les journaux, donc c'est difficile de revenir évidemment sur le contexte, mais quand ça se transpire dans les journaux, c'est parce que souvent il y a eu quand même quelque chose, il y a eu des émotions, donc il y a c'est sûr que c'est difficile à évaluer jusqu'à quel point. C'est pas comme si ça se passait aujourd'hui, puis après ça on peut le regarder à la télé puis s'en faire une idée sur l'ampleur de la réaction des policiers. On va aller les interroger, on va aller les voir, donc là c'est plus de la une question de perception, parce qu'on n'a pas vraiment de détails, mais si on l'écrit, c'est parce que les autres policiers se sont sentis, évidemment, concernés. Et en fait, ils se sont tellement sentis concernés que c'est là qu'ils ont demandé à être armés de revolvers. Peut-être que ça faisait partie de leur requête depuis un certain temps et que là, c'était dû. Hein? Un revolver à la hanche, c'est toujours plus dissuasif qu'une vieille matraque. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique la perte de Malone et de Beatty. Donc, ces deux policiers qui étaient en devoir et qui se sont fait attaquer par des foules. Donc, dans les deux cas, dans celui de Beatty, ça a commencé avec deux itinérants, un en particulier, mais ça a fini quand même aussi avec une foule. Alors, avec un revolver, peut-être qu'on aurait pu réussir à repousser certaines personnes ou à convaincre que, comme c'est arrivé aux États-Unis, au Far West, il y a certaines légendes, évidemment, mais avec un revolver, il y en a qui ont déjà réussi à repousser des foules en colère. C'est sûr qu'il faut un bon pouvoir de dissuasion quand même derrière le revolver, mais bref. Donc, les policiers demandaient à être armés, parce que là, on en déduit assez facilement que jusqu'à maintenant, ils avaient seulement des matraques. D'un autre côté, on souligne aussi que avant sa mort, Beatty a eu l'occasion d'enregistrer une déclaration, ce qu'on appelle une déclaration ante-mortem. Je vous avais dit dans une précédente balado qu'on enverrait quand même quelques-unes. C'est pas arrivé extrêmement souvent, mais à l'occasion, c'est quand même arrivé. Et dans ces cas-là, il faut que la victime soit consciente qu'elle va mourir. Parce que je me souviens pas dans quel dossier là, mais ça a été déjà refusé parce que la victime refusait de croire qu'elle allait mourir, donc elle était certaine qu'elle survivrait, donc la déclaration ante-mortem n'a pas compté et n'a pas été admise non plus en procès. Mais bon, on va fermer cette parenthèse là. Donc plusieurs jours après l'incident, il y a un certain Gustavus Roach qui s'est livré de lui-même aux autorités et il a déclaré que depuis le soir de la bagarre, il avait voyagé sur les lacs, c'est ce qu'on dit, et qu'il ignorait qu'un mandat avait été émis contre lui pour avoir donné des coups à Beatty. Mais qu'en revenant ici, j'imagine que c'est Montréal dont on parle, sa mère lui avait appris qu'est-ce qui se passait et tout ça, donc qu'on le recherchait pour ce crime-là, et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu de lui-même. Évidemment, dans un contexte comme aujourd'hui, quelqu'un qui reviendrait après plusieurs jours pour nous dire « Oh, j'en ai pas entendu parler, c'est-tu plate, je savais pas », ça serait un peu rigolo, hein? On aurait beaucoup de difficultés à le croire parce qu'évidemment, les nouvelles vont vite aujourd'hui, même très vite. Et c'est pratiquement impossible qu'un fugitif ne sache pas qu'il est recherché, pour surtout pour le meurtre d'un policier. Mais à cette époque-là, j'imagine que le recul n'est pas le même et qu'on pourrait peut-être lui laisser le bénéfice du doute. C'est sûr qu'on connaît pas tout le contexte et surtout pas la façon que lui l'a présenté. On n'a pas le ton de sa voix, par exemple, même si je m'amuse à faire des imitations à l'occasion. Mais à cette époque-là, les communications étaient très différentes d'aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, s'il travaillait sur les lacs, là, je ne sais pas ce qu'il faisait exactement comme métier, mais c'est un peu comme bûcheron, hein. Il y a des hommes qui travaillaient dans les camps de bûcherons. Ils montaient là durant les mois de l'hiver pour bûcher et ils pouvaient rester des semaines et même des mois sans avoir contact avec la civilisation, ou presque, parce qu'il y avait quand même un courrier qui s'échangeait là, avec les camps de bûcherons. Mais sur les lacs, comme M. Roach l'a prétendu, ben peut-être qu'on pourrait lui laisser le bénéfice du doute, évidemment. C'était une autre époque, donc parfois, il faut tenir compte aussi de ce contexte-là. Donc, un peu plus tard, Roach et un de ses collègues, un dénommé Michael Carman, ont été poursuivis, ont subi leur procès pour le meurtre du policier Beatty en novembre 1885. Mais ils ont tous deux été acquittés. Donc, faute de preuves, j'imagine, encore une fois, c'était difficile de savoir qui dans la foule a fait quoi. Voilà, c'est assez triste, mais on se retrouve devant la mort de deux policiers montréalais, morts en devoir. Et est-ce que les revolvers ont été acceptés ensuite pour armer les policiers de la ville? Je sais pas quand ça s'est fait, mais faudrait que je fasse une petite recherche là-dessus. Mais c'est sûr qu'éventuellement, les policiers de la ville de Montréal ont fini par être armés. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'était plus la même game, comme on dit, qui se jouait entre bandits et police. Alors, voilà. La prochaine balado, on va rencontrer un autre cas non résolu qui s'est déroulé, lui aussi, en 1885. Là, vous allez probablement deviner qu'on arrive à la fin de la deuxième saison de Non élucidé. Et oui, ce sera le 39e épisode, le prochain épisode. Et pour le dernier de la saison, parce que là, j'ai décidé que dans Non élucidé, il y avait 20 épisodes pour chaque saison. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai décidé. That's it. Et pour le 40e, j'ai décidé de faire une petite exception. On va faire un bond dans le temps. On va aller en 1970 parler du meurtre non résolu, très, 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 mais très peu connu, d'une jeune femme qui a été assassinée dans des circonstances, mais vraiment bizarres. C'est assez bizarre, cette affaire-là, que je pense qu'on pourrait en écrire un livre, pratiquement. Mais bon, on y reviendra pour le 40e. C'est juste pour vous montrer que, éventuellement, je sais que y a certains et certaines d'entre vous qui préfèrent entendre parler de causes non résolues plus récentes parce que ça les touche peut-être plus. Mais c'est pour ça que je fais un petit bond pour vous montrer que oui, on va y arriver à un moment donné. Mais je tiens aussi à suivre un certain ordre chronologique pour démontrer, par exemple, qu'il y a des cas de toutes les sortes. Et on apprend aussi sur l'évolution du temps. Écoutez, je vais vous faire une comparaison un peu ridicule, là. Mais quand j'étais petit, on avait pris l'avion à un moment donné pour aller en Floride. Et moi, ça a été le choc, hein, parce que quand on est parti d'ici, c'était en fin février, début mars. Il y avait de la neige, mais c'était épouvantable. Puis on arrive là-bas, puis les portes de l'avion s'ouvrent. Pouf! Je me souviens encore de la bouffée de chaleur que j'ai eue en pleine face. Je me disais, wow, c'est comme si j'avais été téléporté. 3 heures d'avion, puis paf, on se retrouve dans un autre climat. J'ai rien vu entre les deux. Et pour comparaison, en 99, j'ai fait l'ouest des États-Unis en auto. Et là, je suis parti d'ici, puis j'ai fait le tour de l'ouest américain en automobile. Et là, j'ai eu le temps de voir, ça n'a pas été comme la téléportation de l'avion. Là, j'ai eu le temps de voir tranquillement le changement de décor, le changement de végétation, la température aussi un peu moins parce que cette fois-là, j'y suis allé l'été. Mais j'ai eu le temps de m'adapter, j'ai eu le temps de voir l'évolution, j'ai eu le temps de voir, OK, entre le Québec et l'Arizona, il s'est passé ça. OK, les Rocheuses commencent à peu près là. Tandis que si je l'avais fait, je serais arrivé en Arizona en avion, ça aurait fait paf! J'aurais quitté mes érables d'ici pour les cactus saguaro de l'Arizona tout d'un coup. Et avec la chaleur sèche de là-bas, ça aurait été le choc aussi. Alors voilà, c'est juste pour vous dire que si on prend le temps de y aller, le choc va être moins grand, puis on va comprendre un peu plus l'évolution du crime aussi. Et c'est pas mauvais non plus du fait que plus on en voit des homicides, ben plus on comprend aussi le pattern et tout ça, donc on devient un peu des experts, tu sais, genre, là. Mais c'est sûr. Fait que, à la prochaine!